Nous sommes en direct de l'abbaye de Bonneval en Aveyron où nous sommes accueillis par les sœurs cisterciennes et nous voulons vous faire vivre ce temps sacré du Triduum Pascal. Aujourd'hui, samedi saint, une émission spéciale Vivante Église pour rentrer dans la symbolique de cette journée assez particulière. Nous sommes avec sœur Marie-Gabrielle et sœur Anne. Je me tourne d'abord vers vous, sœur Marie-Gabrielle, pour vous demander ce que ce samedi saint, qui est un jour un petit peu à part, signifie, les chrétiens sont quand même plongés dans un grand silence.
Le samedi saint, c'est un jour de grand silence, comme vous venez de le dire, un grand silence sur toute l'étendue de la terre, j'ai envie de dire. Tout s'est tu, et on dirait que la création entière retient son souffle. Concrètement, c'est un jour aussi de dépouillement. Par exemple, le sanctuaire de l'église a été dépouillé de tous ses ornements. Il n'y a plus de nappe sur l'autel qui reste nue jusqu'après la veillée pascale. Il n'y a plus de bougies, plus de fleurs. Les cloches ne sonnent plus non plus. Le chant est exécuté a cappella, donc il n'y a pas d'accompagnement, ni à l'orgue, et la cithare, même à Bonneval, s'est tue. La porte du tabernacle est ouverte, car la présence réelle n'y repose plus. Il y a juste une réserve eucharistique qui est conservée en dehors de l'église, car le samedi saint est un jour dit aliturgique, ce qui veut dire qu'on n'y célèbre pas la messe.
C'est justement la question que je voulais vous poser. Il n'y a pas de messe qui est célébrée. Est-ce qu'il y a quand même néanmoins quelques sacrements qui peuvent être célébrés?
Oui, mais de manière un petit peu exceptionnelle. Par exemple, seuls les malades en danger de mort peuvent communier en ce jour. Et s'il est permis d'administrer le sacrement de pénitence et de réconciliation, par contre, on ne célèbre ni baptême ni mariage ce jour-là. C'est comme si tout était mis en attente. Le temps est comme suspendu et un peu arrêté.
Nous savons que le jour du Vendredi Saint est traditionnellement un jour de jeûne. Qu'en est-il du Samedi Saint?
Le Samedi Saint est également un jour de jeûne, mais ce n'est pas un jeûne uniquement pénitentiel, comme pendant tout le temps du carême. Il s'agit d'un jeûne pascal, c'est-à-dire un jeûne de désir qui prépare nos cœurs à s'ouvrir pour accueillir la joie du Christ ressuscité.
Sœur Marie-Gabrielle, il n'y a pas de messe qui est célébrée le samedi saint. Néanmoins, vous, les sœurs, et puis tous les chrétiens qui le souhaitent, peuvent s'associer et dire la liturgie des heures. Donc il y a quand même des offices qui sont célébrés.
Tout à fait. Mais la journée est rythmée uniquement par les offices. Des vigiles jusqu'aux vêpres de ce soir, nous allons prier avec une grande sobriété, sans éclat. Et dans le grand dépouillement de ce jour, il reste à l'église uniquement le chant des psaumes et donc nos voix pour exprimer notre foi. Et ces psaumes, tantôt ils vont être un appel à la confiance, tantôt un cri lancé vers le Dieu vivant qui sauve de la détresse, tantôt une invitation à demeurer dans la paix, dans la certitude que Dieu veut pour nous la vie et le bonheur.
Ces psaumes reflètent bien cette journée du samedi saint qui est un peu comme un jour entre deux, entre le vendredi saint où la souffrance est à son paroxysme et puis cette joie de Pâques qui est attendue.
Entre le vendredi saint et le jour de Pâques, nous vivons comme une tension, une tension entre la tristesse et la joie. Et le samedi saint nous permet de tenir le bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire il nous permet d'éviter de tomber dans une souffrance poussée à l'extrême, dans une forme de dolorisme, et il nous permet aussi de ne pas tomber dans une joie trop exubérante. Donc le samedi saint nous tient en équilibre.
Et concrètement, comment vivez-vous cet équilibre en communauté?
Nous le vivons en essayant de faire de ce jour un jour de silence et de prière. Et comme le dit une hymne que nous allons chanter, que nous chantons aujourd'hui plus spécialement, c'est l'heure du repos. C'est un jour un petit peu en creux, durant lequel, face à l'absence, nous nous tenons à côté de Marie, qui, comme à la crèche, veille dans le silence et médite tous ces événements en son cœur. C'est ce que nous avons, je pense, principalement aujourd'hui à faire, nous tenir à côté de Marie, dans la prière, dans l'espérance et la confiance.
Et concrètement, cette présence aux côtés de Marie, elle se traduit par la prière du chapelet notamment ?
Non, pas chez nous, non. En fait, traditionnellement, nous n'avons pas la récitation du chapelet. Alors, on peut le dire en privé, mais communautairement, on ne récite pas le chapelet. Ça ne fait pas partie de notre tradition.
Nous le disons dans le credo, Jésus est descendu aux enfers avant sa résurrection pour aller chercher tous ceux qui étaient morts. Quelle signification prend cette, j'allais dire, étape dans le samedi saint ?
Jésus descend aux enfers, c'est-à-dire que l'amour, avec un grand A, franchit les portes de la mort pour nous en libérer et nous entraîner avec lui dans sa gloire. Aujourd'hui, c'est le bon pasteur qui rejoint la brebis perdue jusque dans sa solitude, dans sa détresse les plus profondes, les plus extrêmes. Il prend la brebis sur ses épaules et la ramène avec lui à la vie. Le Christ vient nous empoigner pour nous entraîner avec lui.
Quand vous dites le Christ vient nous entraîner, on a vraiment cette image du Christ qui vient saisir. Et on le voit bien dans cette icône de la résurrection où le Christ empoigne.
C'est ça, il empoigne Adam, hein, et il le tire vers lui. Et voilà. Donc c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Il vient nous chercher là où nous en sommes, dans ce qui est notre détresse, notre souffrance. Et nous avons cette espérance qu'il vient pour nous en sortir et qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à mourir et jusqu'à venir nous chercher pour nous entraîner avec lui.
Quel lien feriez-vous, Sœur Marie-Gabrielle, entre ce jour du samedi saint et votre vie monastique ?
Si nous devions symboliser la vie monastique par une seule journée de l'année liturgique, eh bien, je me dis que ce serait peut-être le samedi saint qui le ferait le mieux. La vie monastique comme une longue veille dans la prière avec Marie, en communion avec nous, nos frères et sœurs en humanité, et dans l'espérance et la certitude d'avoir part un jour tous ensemble à la vie éternelle. Je pense que le samedi saint, c'est ça, et que la vie monastique rejoint cette dimension de veille, de longue veille dans la prière avec Marie.
Vous me disiez, Sœur Marie-Gabrielle, en préparant cet entretien, que c'est une intuition, si on peut parler d'intuition, que vous avez reçue cette année en préparant cette petite présentation du samedi saint. C'était quelque chose qui ne vous était pas venu avant.
Tout à fait. C'est la première fois que ça me monte au cœur. C'est pourquoi si cette préparation m'a donné beaucoup de sueur et de travail, en fait, je ne regrette pas parce que j'ai énormément appris et cette petite étincelle qui est venue en moi me réjouit en fait et me rejoint profondément dans ma vie monastique.
Merci pour votre témoignage, Sœur Marie-Gabrielle. Je me tourne maintenant vers vous, Sœur Anne, puisque avec vous nous allons voir cette longue vigile pascale, voilà, une alternance de textes pour explorer l'histoire du peuple de Dieu et puis les psaumes et quatre parties, la liturgie de la lumière, celle de la parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. Si vous voulez bien, on va commencer par la liturgie de la lumière. Par quel signe principal est-elle caractérisée ?
Oui, la vigile pascale commence par la liturgie de la lumière et particulièrement par la flamme du cierge pascal qui va symboliser par la suite la personne du Christ. Alors au début de la veillée, d'abord la vigile pascale, cette célébration se fait de nuit et on allume un grand feu à l'extérieur où les fidèles se rassemblent et avec un cierge à la main. Et c'est vraiment une veille en l'honneur du Seigneur. Et en fait, les fidèles, avec leur cierge allumé par la suite, vont être vraiment comme les serviteurs, comme dit l'Évangile, qui attendent le retour du Maître. Donc le prêtre commence par la bénédiction du feu. Et puis, il procède à la préparation du cierge pascal.
Ce cierge pascal, précisons qu'il est tout neuf chaque année. Et donc, il y a des gestes spécifiques que le prêtre pose sur ce cierge. Quels sont-ils ?
Le cierge, effectivement, doit être neuf. Il doit contenir de la cire naturelle et marqué d'une croix rouge, porter le millésime de l'année. Et il est souvent orné de motifs. Alors le prêtre prononce les paroles du rite et il suit avec son doigt le tracé de la grande croix. Et puis il fait le même geste sur la lettre alpha qui est en haut de la croix et puis la lettre oméga située au pied de la croix. Ces deux lettres, qui sont des lettres grecques, symbolisent le Christ et font référence à un passage de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui dit « Je suis », donc c'est le Christ qui parle, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai l'eau de la vie gratuitement. »
Le prêtre pose ensuite des clous, c'est ça, quatre clous à chaque extrémité de la croix. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ces clous d'encens qu'il va enfoncer aux extrémités de la croix et au cœur de la croix, à l'emplacement en fait des plaies glorieuses du crucifié qui sont symbolisées par ces clous dorés. Pour le cierge pascal de Bonneval, que j'ai décoré avec soin, et j'ai peint une icône du bon pasteur, comme l'évoquait tout à l'heure Sœur Marie-Gabrielle. On y voit le Christ qui ramène la brebis égarée sur ses épaules. C'est une représentation traditionnelle du bon berger et qui veille sur le troupeau. Et sur cette icône, on voit que le Christ apparaît avec la trace des blessures dans ses mains et ses pieds. Voilà la trace des clous.
Est-ce que chaque année, vous dessinez un dessin différent sur le cierge pascal ?
Oui. Chaque année, je choisis une représentation différente qui symbolise la Pâque. Alors cette année, j'ai fait le Bon Pasteur. L'année dernière, j'avais peint un arbre, l'arbre de la croix. Donc c'était une croix arbre avec une source au pied de l'arbre. Donc cette année, j'ai choisi le Bon Pasteur. C'est une référence, bien sûr, à l'Évangile. Et puis, il y a beaucoup de textes aussi hein, de l'Ancien Testament. Le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger ». Et sur cette icône, j'ai aussi représenté l'eau vive tout en bas, symbole de la vie nouvelle.
On passe à la liturgie de la parole, la deuxième partie de la vigile pascale, avec cette longue succession de lectures et de psaumes.
Avant de passer à la liturgie de la parole, j'aimerais quand même parler un peu de l'exultet. Parce que quand le prêtre arrive dans l'église, quand les fidèles ont allumé leur cierge avec cette flamme du cierge pascal qui représente le Christ, le prêtre pose le cierge sur un porte-cierge très solennellement et puis le chantre, ou en fait c'est le diacre, et puis s'il n'y a pas de diacre, c'est un chantre. Et chez nous, c'est Sœur Marie-Gabrielle justement, notre chantre, qui va chanter l'exultet. Et c'est un très 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 beau chant, un beau poème qui chante le mystère pascal. Et c'est magnifique. Alors moi, j'aime personnellement beaucoup la mention des abeilles. Dans ce chant, je vous cite le petit passage. « Dans la grâce de cette nuit, accueille Père très saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire, œuvre des abeilles, que la Sainte Église t'offre par nos mains. » Et ça nous rappelle que le cierge est en cire naturelle, qui est sécrété par les abeilles. Et donc, moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est toute la création qui entre en jeu à travers ces abeilles. Et c'est toute la création qui devient porteuse de lumière, non seulement les hommes, mais la création entière. Et puis aussi, on peut y voir une allusion à l'Église avec les fidèles qui sont ensemble dans l'unité et qui apportent mutuellement leur petite collaboration, leur petite étincelle et se font, chacun se fait porteur de la lumière du Christ dans le monde. Après, la deuxième partie, c'est la liturgie de la parole. Nous allons écouter 7 lectures de l'Ancien Testament qui retracent l'histoire du salut. Et chaque lecture est suivie d'un psaume chanté. Alors les 7 lectures, c'est comme une grande vision panoramique. On part de la création, on va vers de plus en plus vers des messages prophétiques du Messie. Et on passe bien sûr par la libération de l'esclavage du peuple d'Israël, qui est la Pâque juive. Et c'est comme si toutes ces lectures nous prenaient par la main et nous conduisent vers le Christ, la vraie lumière.
Et donc vers l'Évangile.
Vers l'Évangile, voilà. Vers l'Évangile qui va suivre après. Entre les deux, on entend les cloches qu'on entend à nouveau parce qu'on les avait oubliées pendant 3 jours. Et puis on va vers l'Évangile en passant par la lecture de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Et avant l'Évangile, on proclame très solennellement les 3 Alléluia. Chez nous, on chante 3 fois Alléluia, ce qui est vraiment typique de la veillée pascale. Et puis l'Évangile de la résurrection.
Vient ensuite cette troisième partie dans la vigile pascale, la liturgie baptismale. Et donc là, le signe, c'est l'eau.
Oui, la liturgie baptismale qui est un moment très important, qui est très caractéristique de la liturgie pascale, de la nuit de Pâques, après l'homélie. C'est à ce moment-là que les catéchumènes reçoivent le sacrement du baptême, qu'on introduit par la litanie des saints. Alors chez nous, il n'y aura pas de baptême. Et quand il n'y a pas de baptême, c'est le renouvellement des promesses du baptême que nous allons faire. Donc toute l'assemblée renouvelle les promesses du baptême en renonçant au péché, et le prêtre bénit de l'eau, il procède à l'aspersion de l'assemblée à ce moment-là. Et ce rappel du baptême est très très significatif, car à notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ.
Enfin, la vigile pascale se termine par la liturgie eucharistique, là encore, des rites spécifiques au samedi saint.
La liturgie eucharistique, oui, c'est un point culminant, en fait, hein, dans cette veillée pascale. Et c'est à ce moment-là que nous rencontrons le Christ ressuscité et que nous vivons pleinement le mystère de la rédemption. L'Évangile nous dit que c'est en cette aube du dimanche matin que Jésus ressuscité rencontre les siens, après que ceux-ci aient trouvé le tombeau vide. Il est important aussi de souligner que Pâques a changé radicalement notre rapport au temps. Depuis la résurrection du Christ, l'Église célèbre le mystère pascal chaque 8e jour, qui est nommé le jour du Seigneur, dimanche. Voilà. C'est comme si ce premier jour de la création, le dimanche, devenait l'espérance de ce 8e jour de la vie nouvelle inaugurée par le Christ, qui nous a rachetés par son sang pour nous emmener vers la vie éternelle. Et donc, à ce moment-là de la liturgie eucharistique, nous allons le rencontrer à travers le repas eucharistique. Et c'est pour ça, ça explique, c'est le dimanche de Pâques, c'est ce qui explique que nous, les chrétiens, nous avons à cœur de participer à la messe chaque dimanche. Parce que c'est à nouveau le Seigneur qui vient au milieu de nous pour se laisser toucher par nous, comme Thomas dans l'Évangile, et se laisser rencontrer personnellement à travers la communion. Il se met à table avec nous, il se fait notre nourriture.
Merci Sœur Anne, merci Sœur Marie-Gabrielle pour cet éclairage très précieux sur le samedi saint et cette vigile pascale.